Vous êtes nombreux ce matin, c'est très agréable de vous voir en ce dimanche de Pâques. Vraiment un privilège aussi pour moi de vous apporter la parole en cette fin de semaine de Pâques. À la fin des années 1800, le philosophe allemand Nietzsche a écrit « Dieu est mort ». Dieu est mort. Il disait que la croyance au Dieu chrétien est devenue incroyable et que tout ce qui avait été construit sur cette foi, soutenu par elle, développé par elle, y compris l'ensemble de nos lois ou de la moralité en Europe, tout ça s'est voué à s'effondrer. Inspiré, entre autres, par ces pensées-là de ce philosophe, le magazine Time aux États-Unis faisait paraître en 1966 un numéro avec ce grand titre « Dieu est-il mort ?». Les auteurs soutenaient que la conception traditionnelle de Dieu, elle était en train de disparaître, qu'elle était remplacée par une vision plus impersonnelle, plus séculière de l'existence. Eh bien, à tous ceux et celles qui pourraient croire que Dieu est mort, sachez que non seulement Dieu n'est pas mort, mais il est ressuscité, que des milliards de chrétiens aujourd'hui, à travers l'histoire de l'humanité, célèbrent Jésus au ciel, sur la terre, à l'instant même, le Christ ressuscité d'entre les morts. Est-ce qu'on peut l'applaudir plus fort que ça? Wow! On se joint à toute cette assemblée, on l'acclame, c'est Jésus qui règne dans le ciel. Le titre de mon message ce matin, c'est « Dieu n'est pas mort ». Dieu n'est pas mort. Et ce serait une absurdité, en fait, de penser que la mort peut tuer Dieu. Une absurdité. Rien ne peut tuer Dieu. Dieu, il est la vie. Il est le créateur de toutes choses. Il est depuis toute éternité. Il a toujours existé. Dieu a dit son nom. Son nom, qu'est-ce qu'il est? Il le dit quand il s'est présenté à Moïse. Il le dit « Je suis celui qui suit ». Quand même étrange, difficile à traduire ce passage-là. Voici ce que tu diras aux Israélites. « Je suis m'a envoyé vers vous ». OK? Et juste rapidement, c'est le mot « Yahweh » qu'on prononce ici en français, qu'on a peut-être certains avaient déjà entendu. Mais c'est vraiment difficile à traduire ce nom-là, OK? Le verbe « je suis » ici, il n'est pas vraiment à l'indicatif présent parce que ce temps-là, il n'existe pas en hébreu. L'expression, elle dénote plutôt une action présente, mais continue et future, OK? L'expression, elle pourrait plutôt se traduire « je suis et je serai ». « Je serai celui qui serai » ou « je suis et je serai celui qui est et qui sera ». OK? Voyez-vous toute la profondeur qu'il y a dans cette expression, dans ce nom. Dieu est en train de dire à Moïse et à nous aujourd'hui, « Voici mon nom, voici qui je suis. Je suis celui qui existe par nature, qui ne tient son existence d'aucun autre, qui est l'existence même, qui est la vie. Je suis le Dieu éternel qui subsiste par lui-même. » OK? Dieu n'est pas mort. Amen! Amen! C'était tellement absurde de penser que Jésus pouvait mourir, que les anges vont s'adresser de cette façon aux femmes qui sont venues embaumer le corps de Jésus au tombeau. Ils vont dire, les anges, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » En traduction québécoise moderne, ben voyons les filles, « Come on! » Comment ça, vous le cherchez ici? Ça ne fait pas de sens. Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Et en plus, il vous l'avait annoncé. Voici le fait donc, la réalité, Dieu n'est pas mort, Jésus est ressuscité. Mais comme on va voir, en fait, dans le récit qu'on va regarder de la résurrection, nous allons voir qu'il y a différentes façons de réagir face à cette vérité-là, face à la résurrection de Jésus. Ce matin, nous allons regarder à 5 réactions devant la réalité de la résurrection. L'incompréhension, le doute, la moquerie, la peur et la joie. Quel genre de réaction est-ce que la résurrection produit en toi, la résurrection de Jésus? Peut-être que tu ne le prends pas au sérieux, peut-être que tu n'y crois pas encore, peut-être qu'au contraire, c'est le fondement de ta vie, ton espérance. Peut-être que c'est une réalité que tu as oubliée, même si tu suis Jésus depuis quelque temps. Ça me touche tellement de voir ces témoignages-là de personnes qui viennent de se convertir, puis ils le vivent réellement. Et si tu es chrétien depuis plusieurs années, ça se peut que tu aies perdu un peu cette passion-là, cette compréhension-là de la mort et de la résurrection de Jésus. Et même si nous allons voir qu'il peut y avoir un mélange aussi, hein, les êtres humains, on est complexes, il peut y avoir un mélange d'émotions face à la résurrection de Jésus, l'étonnement, le doute. On va voir que les disciples, des fois, il y avait des doutes, même si ils connaissaient Jésus, la crainte, la joie, parfois tout en même temps, des fois sans nécessairement être contradictoire. Mais je veux nous inviter à la fin de ce message à choisir la joie. On va festoyer ensemble, on va célébrer ensemble le nom de Jésus à la fin de ce message. Mais d'abord, avant d'ouvrir la parole de Dieu, prions ensemble. Donc, courbons nos têtes, fermons nos yeux. Prions le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens déposer dans nos cœurs, Seigneur, ta joie surnaturelle. C'est ma prière ce matin, qu'on puisse te célébrer, qu'on puisse pour un instant mettre tout ce qu'on a de côté autour de nous. Seigneur, on vient avec nos fardeaux, on vient avec nos situations devant toi, mais qu'on puisse prendre le temps de regarder à toi, de t'élever ce matin, de regarder à toi qui règne sur chacune de nos vies, Seigneur, et on sait que tu vas venir faire une action dans nos cœurs, alors qu'on le fait. Amen! Amen! Alors, premièrement, l'incompréhension. Voici ce que nous allons voir comme première réaction face à la résurrection de Jésus. On est dans Luc 24 à partir du verset 1. Donc, c'est après la mort de Jésus. Et là, les femmes vont se rendre au tombeau pour se rendre compte de cela. Donc, allons-y. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, on va retourner à cette émotion-là plus tard, mais elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Donc, les femmes arrivent au tombeau et elles voient tout ça, elles voient les signes de la résurrection, le tombeau qui est vide, mais elles ne comprennent pas vraiment, hein, ne savent pas que penser de cela. Elles voient les signes, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Et qu'est-ce que les anges y font? Ils leur demandent de se souvenir de ce que Jésus a dit, de se souvenir des paroles de Jésus. C'est ce que les anges y font. Parfois, on aimerait que Dieu nous envoie des signes clairs, hein? Des fois, c'est pas clair. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Laissez-moi pas tout seul. On voudrait quelque chose de visible, un halo de lumière. Des fois, tu poses des questions à Dieu, tu voudrais... Voici ton futur mari, ou ta future femme, ça serait vraiment plus simple. On voudrait qu'il envoie une voix du ciel nous dire exactement la vérité, exactement ce qui s'est passé. T'es-tu ressuscité, oui ou non? Que ce soit clair et net. Mais la très grande majorité du temps, qu'est-ce que Jésus fait avec nos incompréhensions? Il nous ramène à sa parole. C'est ce que Jésus lui-même aussi fait, bien, les anges ont fait avec les femmes, et ce que Jésus fait avec les deux disciples que nous voyons plus loin. Juste quelques versets plus loin, on a une autre visite de Jésus. Deux disciples discutent ensemble pour se rendre dans le village d'Emmaüs. Et Jésus, le ressuscité, se joint à eux. Okay? Eux ne le reconnaissent pas encore, mais il se joint à eux, à ces deux disciples-là. Et les deux disciples vont expliquer à cet homme, cet inconnu, que tout le monde parle de Jésus, un prophète qui était vraiment puissant, un prophète qui croyait qu'il allait délivrer Israël, en fait. C'était leur croyance. Mais il a été crucifié. Et ils ne comprennent pas en plus, parce qu'en plus, les femmes ont vu le tombeau vide. Donc, il y a tous ces éléments-là, ils ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe, et ils essaient de l'expliquer à cet homme. On lit ce passage ici dans Luc 24, 22 à 27. C'est les deux disciples qui parlent à Jésus sans savoir que c'est lui. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit... Ça, tu veux pas que Jésus dise ça. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qu'est-ce que Jésus fait avec leur incompréhension? Il les ramène à sa parole, aux Écritures. Peut-être que ta réaction, si c'est la première fois que tu es ici, c'est « Qu'est-ce qui se passe ici, gang de malades? » Ça lève les mains pendant des chansons que je comprends pas trop, les paroles. Je veux te défier à essayer de comprendre le message de l'Évangile, à commencer à lire l'Évangile, à commencer à lire la Bible. Ou peut-être que tu viens à l'Église depuis plusieurs mois, peut-être même depuis quelques années, mais sans creuser plus loin ta compréhension. Plonge-toi dans la Bible. Écoute des messages qui parlent de Jésus, qui parlent de la Bible. Pose des questions. Attache-toi à l'Église et tu vas voir ton incompréhension peut se transformer par la force de l'Esprit en compréhension et en conviction. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vécu? Oui? Amen. C'est ça, les Écritures, ils sont là, elles sont dignes de confiance. Ou tu suis peut-être Jésus depuis longtemps et le fait de ne pas comprendre certains sujets te rend mal à l'aise. Dis-toi que c'est normal de ne pas tout comprendre, sinon nous serions Dieu, et ce n'est pas le cas. Quand ça t'arrive, retourne à la parole de Dieu, pose des questions à ceux et celles qui ont un don d'enseignement, ne laissons pas nos incompréhensions nous éloigner les uns des autres, en bâtissant chacun nos petites convictions, nos petits royaumes de convictions, d'opinions personnelles, mais que nous puissions développer notre pensée biblique, s'ancrer dans la parole de Dieu, nous laisser guider aussi par nos leaders pour approfondir notre compréhension de la parole. Retournons aux Écritures. Vous êtes toujours avec moi? Oui. La deuxième réaction qui est semblable un peu à l'incompréhension, c'est le doute. Okay? C'est ce qu'on va regarder ensemble, c'est vraiment lié. Après que les deux disciples, que Jésus ait parlé aux deux disciples, Jésus va finalement se présenter. On poursuit notre lecture dans l'Évangile de Luc. Il va se présenter finalement aux 11 disciples. Donc, il est allé marcher avec les deux disciples et là, on le voit qui se présente devant les 11 disciples. Et voici qu'est-ce qui va se passer. Luc 24, à partir du verset 36. Il parlait encore, les disciples, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, il leur dit, comme si de rien n'était, « Que la paix soit avec vous. » Salut, les gars! What's up? Saisi de frayeur et d'épouvante, on va y retourner aussi, il croyait voir un esprit. Bien sûr, il était mort, comme un fantôme. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, ces mains et ces pieds qui avaient été cloués, qui gardaient les traces des clous. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien. J'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, regardez tout le mélange d'émotions. Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent comme si, « Est-ce que vous voyez que je suis vraiment physique, là? Touchez-moi? » Non. OK, bien, mangeons ensemble, OK? Ça passe pas à travers. Je mange avec vous. Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Et il en prit et mangea avec eux. Ici, on voit plusieurs émotions, la peur, la joie, qu'on va voir plus tard, mais aussi le doute, tu sais, l'incompréhension, le doute sur est-ce que c'est vraiment vrai? Ils n'ont pas l'air sûrs, OK? Ils n'ont pas l'air sûrs. Ils pensent voir un esprit, ils ont peur. Jésus leur dit de toucher. Finalement, il va un peu plus loin pour prouver finalement qu'il est là, pour réduire les doutes que oui, je suis vraiment là, ressuscité en chair et en os. Mais Jésus va finalement les convaincre de cette façon. Regardez au verset 44. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Comment les gars, rappelez-vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour. Que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen! Voyez-vous, parfois, on voudrait un signe clair de la part de Dieu pour croire. Certains vont même dire, plusieurs disent, OK, ben si Dieu est vrai, ben s'il se présente en chair et en os devant moi, je vais le croire. Mais avez-vous vu? Les disciples l'ont vu en chair et en os et ils ne croyaient pas. Ça demande la foi. Ils vont croire parce que Jésus a vraiment éclairé leur esprit par son esprit pour leur ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures et dire « Ben oui, c'est vrai, c'est écrit, c'est annoncé, c'est tellement clair maintenant. » Tout comme l'incompréhension, le doute est normal aussi dans la marche chrétienne. C'est normal à un moment donné ou à un autre qu'on puisse douter. Ça ne nous disqualifie pas. Mais on doit gérer notre doute, OK? Dans ces situations-là de doute, retourne à la parole de Dieu. Retourne dans la présence de Jésus. Demande-lui de fortifier ta foi, ta compréhension par son esprit. Toujours là? Troisième réaction qu'on va regarder ensemble, c'est la moquerie. On revient un peu sur nos pas, OK? Je voulais mettre le doute, la compréhension ensemble parce que c'était ces deux points qui se ressemblaient. Donc, on revient un petit peu sur nos pas dans le texte. Donc, alors que avant que les disciples rencontrent Jésus, je veux vous lire ce passage dans Luc. Quand les femmes vont leur annoncer, donc les femmes ont vu le tombeau vide, ils ont vu les anges, et là, ils vont arriver devant les disciples, ils vont dire « Hey les gars, voici ce qui est arrivé », et les gars ne les croient pas. On va lire ce passage-là dans Luc 25, 9 à 11. À leur retour du tombeau, les femmes annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Certains se moquent des chrétiens, comme les disciples ici se sont moqués de ces femmes qui étaient pourtant témoins de la résurrection. Certains disent que la foi est une béquille pour les gens, que tous les chrétiens sont des gens faibles. Et avant de démentir ce fait-là, il y a une part de vérité là-dedans. C'est important qu'on comprenne, parce que suivre Jésus demande de réaliser que nous avons besoin de lui, que sans lui, nous sommes incapables de rien faire, sans lui, nous sommes perdus. Le salut est disponible pour ceux qui réalisent que oui, ils sont faibles, ils sont pécheurs, ils ont besoin d'un sauveur. On est sauvés par la foi qu'on met en Jésus-Christ. 1 Pierre 5, 5 à 6 nous dit « Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux. » mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. S'il y a quelque chose que je ne supporte pas, j'ai quand même une bonne tolérance. J'aime écouter des humoristes. On est même allé voir dernièrement Louis-José Hood à Québec. C'était très drôle. Et j'ai une tolérance pour quand même... des blagues, bon, qui sont à la limite, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, bon, on en prend, on en laisse, OK? Mais s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est quand des humoristes commencent à se moquer de Jésus. Je ne peux pas supporter ça. Ça me remplit de tellement d'émotions, de colère, d'injustice, de tristesse, de... Ah, j'ai envie de crier. Je ne peux pas écouter ça, ces paroles-là, c'est tellement blessant. J'ai envie de me boucher les oreilles ou je change de poste, bien évidemment. On voit que plusieurs, dans le récit de la crucifixion, plusieurs se sont moqués de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse juste lire ce passage-là. Je vais le lire, il va y avoir cette image-là. Qu'on puisse, il n'y aura pas le texte ici à l'écran, mais que vous puissiez juste vous imaginer la scène pendant que je vais lire ce passage un petit peu plus long. C'est dans Matthieu 26, 31. Voici toutes les gens qui se sont moqués de Jésus. Alors Pilate relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements, il était nu. Ils lui mirent un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs ». Ils crachaient sur lui. Prenait le roseau et le frappait sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Les passants l'insultaient quand il était à la croix. Ils secouaient la tête en disant « Toi qui détruis, c'est ce qu'il avait dit Jésus, toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. En effet, il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés aussi l'insultèrent de la même manière. Ces brigands crucifiés, eux qui étaient des criminels, eux qui étaient coupables, commençaient à insulter Jésus. Et un peu plus tard, Jésus va mourir, il est sur le point de mourir, et voici ce qui va se produire. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme, rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple regardait la puissance. Le voile du temple, le temple à Jérusalem, se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs chrétiens qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quand nous voyons la puissance de la résurrection, ça devrait faire en sorte de remettre le moqueur à sa place, comme à cet officier. Et pour tous ceux et celles peut-être qui se font ridiculiser, parce que oui, ça arrive ici au Québec, qui se fait ridiculiser pour ta foi en Jésus, rappelle-toi la puissance de la résurrection. Un jour, justice sera faite et comme cet officier romain qui insultait Jésus, comme il a finalement reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, tout le monde reconnaîtra et tout genou fléchira, tout le monde reconnaîtra que Jésus est le Seigneur, alors persévère, ne perds pas courage, n'abandonne pas ta foi malgré l'adversité. Amen. Et alors que l'ennemi croyait, imaginez un peu l'ennemi rire, Satan qui rit d'avoir tué le Fils de Dieu. Finalement, c'était une baliverne tout ça. J'ai été capable de tuer le Fils de Dieu. Il devient bien rire, devient bien se moquer de Jésus en pensant l'avoir vaincu. Mais regardez dans Colossiens 2, 14, 15, qu'est-ce qu'on lit? Jésus nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé. Qu'est-ce qui a été cloué à la croix? Notre acte de culpabilité. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement en spectacle, il les a donné publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Amen. Pouvez-vous applaudir cette puissance déployée, cette victoire à la croix? On peut être fier de la victoire de Jésus. C'est lui qui, un jour, va se moquer publiquement. Il va faire un show pour se moquer publiquement des orgueilleux. Jésus est victorieux. Il règne pour l'éternité. Amen. La quatrième réaction qu'on voit dans nos récits, je termine bientôt. On se rappelle la réaction des femmes au tombeau, hein, quand elles sont arrivées, comme elles ne savaient que penser de cela. Voici que les deux anges apparaissent, habillés de vêtements resplendissants. Regardez le verset, j'aime tellement ça ici. Saisies de frayeur, elles tenaient, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Et quand on voit aussi les disciples qui pensent voir un fantôme, on voit dans Luc 24, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux, que la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante. De frayeur et d'épouvante. Ils ont vraiment peur, là. C'est vraiment, imaginez voir un fantôme, là. Ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Jésus, il les rassure. Regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme moi, vous le voyez bien, j'en ai. Peut-être que tu ne veux pas toucher à ces affaires-là, les choses spirituelles. Tu veux t'en tenir à des choses terre à terre, peut-être parce que tu as peur de perdre le contrôle. ou de te laisser toucher par quelque chose qui te dépasse, par quelque chose de plus grand que toi. Peut-être que tu n'oses pas ouvrir ton cœur à Dieu parce que ça te dépasse, c'est une réalité qui nous dépasse. Peut-être que tu as déjà été blessé, déçu par l'Église et tu accuses Dieu à cause de ça et maintenant tu as peur de faire confiance, tu as peur de croire, tu ne fais plus confiance. Peut-être que tu as peur d'être identifié à Jésus aussi, de t'identifier comme chrétien, de parler de ta foi autour de toi, de témoigner de la résurrection de Jésus. Mais Jésus veut te rassurer ce matin en te disant, n'aie pas peur, je suis avec toi, je te connais. Je connais tes besoins, je connais tes blessures, je connais tes craintes. Et il veut augmenter aussi ta foi ce matin, que tu sois assez courageux, courageuse pour faire le prochain pas qu'il te demande de faire dans ta démarche spirituelle ou le prochain pas que tu as besoin de faire dans ta vie. Il est avec toi. Je prie vraiment que l'Esprit Saint te fortifie. La Bible nous dit à plusieurs reprises, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il y a une part aussi de responsabilité de dire, non, je ne vais pas me laisser abattre. Je vais faire confiance à Jésus. Fais-lui confiance parce qu'il est digne de confiance. Il est fidèle. Il est là avec toi. Et pendant que les musiciens s'approchent, regardons à notre cinquième et dernière réaction face à la résurrection de Jésus. Dans notre récit, nous voyons que la joie est entremêlée à d'autres émotions. On voit qu'il y a une joie qui est entremêlée de crainte. C'est ce verset-là que je voulais mentionner tout à l'heure, Matthieu 28, 8. Les femmes, c'est dans le récit de Matthieu, les femmes s'éloignèrent rapidement du tombeau. De quelle façon? Avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Au sens où la nouvelle à laquelle ces femmes ont fait face était tellement bouleversante, tellement spectaculaire, qu'elle était à la fois remplie de crainte et de joie. C'est particulier, comme on dirait que c'est paradoxal. C'est rare, moi, en tout cas, quand j'ai peur, je ne suis pas très joyeuse, je ne sais pas pour vous. C'est rare qu'on vit ces deux émotions-là en même temps. Mais la résurrection est tellement grandiose que notre joie devrait être empreinte d'une profonde révérence, d'un sentiment de petitesse, d'humilité devant la grandeur de la puissance de Dieu. Je pense que c'est ce mélange-là d'émotions que ces femmes ont vécues. On voit aussi que les disciples vivaient la joie en même temps que l'étonnement, un peu dans le même sens. Luc 24, 40, en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Ils sont vraiment joyeux. « Ah, Jésus, il est avec nous! » En même temps, hein, « pas sûr! » Et en même temps, « Ah, c'est fou! » Ok, imaginez tout ça, là. Voir leur visage se transformer au flot des émotions. C'est comme si pour les disciples, c'était trop beau pour être vrai. Jésus, leur maître, leur rabbin, imaginez un petit peu, là, celui avec qui ils avaient passé trois ans vraiment proches, cœur à cœur. Celui qu'ils croyaient être le Messie, finalement, il n'est plus mort. Il est revenu à la vie. Quoi? Jésus, t'es là? Est-ce que c'est vrai? Waouh! La joie peut apporter une certaine incrédulité au sens où ça paraît tellement beau pour être vrai. Jésus, tu m'aimes pour vrai, moi? Jésus t'a vraiment pardonné mes péchés, moi? Soyons remplis ce matin de cette joie, une joie empreinte de révérence devant la grandeur de Dieu et une joie qui nous rappelle que la mort et la résurrection, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai quand même. Le fait que Jésus soit mort pour nos péchés, qu'il nous offre la vie éternelle, une vie sans larmes ni douleurs, qu'il a fait tout ça gratuitement par amour pour chacun d'entre nous et que si simplement tu confesses de ta bouche, Jésus comme Seigneur, que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé tout simplement. Tout ça, c'est trop beau pour être vrai et c'est ça qui fait notre joie. Est-ce qu'il y en a qui sont joyeux dans cette salle? Est-ce qu'on peut dire oui? Un beau sourire tout le monde, un beau sourire de joie, rempli de tellement d'émotions, de majesté. Et je veux conclure en vous lisant la conclusion de l'Évangile de Luc. À partir du verset 50, c'est comme ça que Luc termine son évangile. Jésus les conduisit vers Béthanie, puis leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans quelques minutes. On va élever le nom de Jésus, on va louer, on va bénir notre Jésus ressuscité, vainqueur sur la mort. J'aimerais vous inviter à vous lever. On va juste se lever ensemble. Et je veux juste te dire, si tu vis des incompréhensions ou des doutes, je veux t'inviter à te plonger dans la parole de Dieu, à lire ta Bible, à écouter des messages, des enseignements, à t'attacher à Jésus, à t'attacher à l'Église, à la communauté chrétienne. Si tu as envie de te moquer de Jésus ce matin, mais il n'y a personne ici qui a envie de faire ça ce matin, bien sûr que non, ou peut-être quelqu'un qui l'écoute en ligne, si tu as envie de te moquer contre Jésus ou les chrétiens même, je veux t'inviter, mon ami, à t'humilier devant Dieu, à reconnaître ta faiblesse, à reconnaître ton besoin d'un sauveur et il va venir te chercher les bras grands ouverts par amour. Si tu vis avec des peurs ou des craintes, écoute Jésus qui te dit « N'aie pas peur, fortifie-toi et prends courage, mon enfant. » Mais mon appel est très simple ce matin, que nous puissions apporter ces émotions devant Jésus. Viens tel que tu es. Okay, je ne connais pas la situation de tout le monde ici. Viens tel que tu es. Viens avec tout ce qui t'habite. Peut-être même un mélange d'émotions comme on a vu. Mais je veux t'inviter à te laisser gagner par la joie du Seigneur Christ ressuscité. Que l'Esprit de Jésus puisse te remplir d'une joie surnaturelle qui dépasse tout ce que tu peux vivre actuellement. Et Jésus le fait. Que nous puissions, pour un instant, mettre de côté ce que nous sommes en train de vivre et qu'on puisse juste élever Jésus parce qu'il est victorieux, il est grandiose, il règne. Je vais juste prier, puis on va commencer à louer le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons t'élever. Tu es digne, tu es grand, tu es le seul nom qui règne au-dessus de tout nom. Nous voulons, Seigneur, ta joie. Remplis-nous d'une joie fraîche, d'une révélation fraîche, Seigneur, viens mettre ta joie dans nos cœurs, l'amour aussi que nous avons les uns pour les autres et que nous avons pour toi, Seigneur. Merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Nous voulons t'élever ce matin. Est-ce qu'on peut, avec un grand sourire, louer Dieu, acclamer Dieu?